Alors, je suis triste ce matin parce qu'on aborde les derniers versets de l'Épître aux Philippiens après ce parcours commencé en septembre. Alors, je ne sais pas comment vous sentez les choses. Peut-être vous dites « Yes, enfin, on sort de Philippiens ». Non, peut-être que vous avez aussi... je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez retenir, hein, qu'est-ce qui vous a marqué de manière toute particulière dans cette lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Et peut-être qu'un exercice, quelque chose qui peut être chouette à faire cette semaine de très concret, c'est de se dire que, en tout cas, les prédications ou les moments où j'étais présent pour l'étude de cette lettre, qu'est-ce que je retiens ? Peut-être une chose qui m'a marqué dans ce parcours, en tout cas dans ce que j'ai entendu. Et cette chose, comment je peux en faire un sujet d'encouragement pour un frère ou une sœur ? Et peut-être un défi pour cette semaine, c'est de se dire, je vais prendre un de ces éléments que je retiens et je veux encourager un frère ou une sœur de la communauté avec cet élément. Je peux lui écrire un message, je peux l'appeler, lui envoyer un WhatsApp, un SMS. Ça peut être quelque chose de chouette. J'ai intitulé... ce message ce matin, merci pour l'argent, mais il y a une plus grande richesse. Je vous invite à prendre ces derniers versets, presque derniers versets, il en restera trois. Dans Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 20. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Un des sujets principaux de cette lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe, c'était pour remercier les chrétiens de Philippe pour un don qui leur a avait fait parvenir, certainement un don financier, peut-être un don matériel, qu'il leur avait fait parvenir par le biais de Épaphrodite. Et il l'avait abordé dès le premier chapitre de sa lettre, en évoquant et en remerciant aussi, qui rendait grâce à Dieu, pour ce soutien apporté, chapitre 1, verset 5. Ces chrétiens avaient à cœur l'apôtre Paul, ils avaient à cœur son ministère de propager l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, et il le soutenait dans son ministère. Et Paul a dit d'eux, dans le premier chapitre, qu'il était reconnaissant parce qu'ils étaient des partenaires de l'Évangile, qu'ils étaient ses collaborateurs dans cette mission d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand il pense à ce don qu'il vient de recevoir de la part des Philippiens, Paul évoque que c'est une vraie joie pour lui. Vous l'avez vu, verset 10, « Je me suis réjoui ». Verset 14, « Vous avez bien fait ». Verset 18, « Je suis dans l'abondance ». Je suis comblé. Paul est reconnaissant. Mais en même temps, Paul a une crainte. Il craint que ses propos puissent être mal interprétés et que certains puissent penser qu'il parle motivé par l'argent, motivé par ce matériel peut-être qu'il vient de recevoir. Et du coup, à deux reprises, il temporise. Il dit « Merci pour l'argent, merci pour ces dons, mais pensez pas que c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelque chose de plus important. Il y a une plus grande richesse. » Verset 11, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. » Verset 17, « Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. » Paul veut mettre l'accent sur deux choses qui comptent encore plus pour lui. Et ce seront les deux points de ce message ce matin. Paul est en train de leur dire, et c'est peut-être ce qu'on peut retenir, au-delà de la joie que j'ai de recevoir ce don matériel ou financier, considérons surtout la richesse supérieure du contentement en Dieu et la richesse supérieure de donner pour Dieu. Attendez, je me suis perdu dans les notes. Voilà. Alors, j'ai regardé une définition. J'aime bien regarder des fois la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Donc, c'est le Larousse, sur le site larousse.fr, de ce qu'est le contentement. C'est l'état ou le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Une satisfaction vive et durable, plaisir, joie. Fin de la citation. Quand Paul dit « j'ai appris à être content », le terme qu'il utilise, c'est le terme qui a donné, dans notre langue française par la suite, le mot « autarcie ». C'est-à-dire avec cette idée de « qui se suffit à lui-même, indépendamment des circonstances de la vie ». C'est-à-dire que nous ne dépendons plus des circonstances extérieures pour être heureux ou épanouis. D'où le concept de la vie en autarcie, avec cette notion d'autosuffisance. On peut subvenir à ses propres besoins. Quand on regarde la vie de Paul au travers de toutes les lettres qu'il a écrites aux différentes églises, dans le livre des Actes aussi, on se rend compte que Paul a fait face à ces conditions extrêmes dont il parle. Paul a connu le dénuement, il a connu la faim, la soif, les besoins matériels. Il a tutoyé ce que c'était que d'être pauvre. Mais il a aussi connu, et il est dans cette situation au travers de ce don qu'il reçoit, le fait d'être rassasié, d'être dans l'abondance. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus facile des deux. Quand on vient à manquer, effectivement, on aspire à avoir plus. Mais quand on a plus, pas non plus facile de trouver la satisfaction dans ce que l'on a, avec parfois ce désir de vouloir encore plus. Paul dit, verset 12, « J'ai appris à être content avec ce que j'avais. » C'est cette idée d'un apprentissage par l'expérience. au travers de ces circonstances auxquelles il a dû faire face dans sa vie. Et je me dis que si Paul lui-même a dû apprendre le contentement, bien ça veut dire que c'est pas naturel. Et quand je regarde à ma propre vie, je me rends compte que être satisfait avec ce que j'ai n'est pas quelque chose de naturel. Nous sommes naturellement, j'ai envie de dire, insatisfaits. Et en plus, on n'est pas aidé par le fait qu'on est français. Et c'est bien cela la réputation qui nous colle à la peau. Toujours insatisfait. On a cette idée, j'ai cette idée parfois, que suivant les circonstances, je me dis, mais je mérite mieux que ça. Je mérite une meilleure situation que cette situation dans laquelle je me trouve. Vous savez, cette pub de L'Oréal, parce que je le vaux bien. J'ai ce désir de toujours plus. J'ai Internet par la DSL à la maison. Quand la fibre est sortie, j'avais la tentation d'avoir la fibre. C'est plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. J'aspire à un autre métier, peut-être plus valorisant. Je suis dans une attente pour un prochain voyage. J'aspire à un autre appartement ou à une autre maison. J'aspire à d'autres vêtements. Et la publicité se régale en cela pour créer en nous des nouveaux désirs dans nos cœurs. On a cette idée finalement, quand on pense et qu'on réfléchit à cela, cette idée que finalement, la prochaine chose que l'on va avoir va peut-être finir par nous combler, par nous rendre peut-être plus heureux. Et nous sommes finalement dans cette quête perpétuelle peut-être d'un bonheur, d'une satisfaction durable que nous essayons parfois de combler par les biens matériels. Quelqu'un a dit « Le contentement, c'est vivre sans le mensonge selon lequel avoir plus de quelque chose fait de moi quelque chose de plus. » Il y a une quinzaine d'années, en période de Noël, alors qu'on me demandait qu'est-ce que je voulais comme cadeau pour Noël, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un petit peu comme blasé de ce que j'avais. Je ne savais pas quoi dire qui me ferait plaisir à Noël, parce que j'étais quelque part dans une situation d'abondance, et peut-être que j'avais perçu aussi cette notion que finalement, c'est ces choses qu'on allait m'offrir qui allaient m'apporter quelque chose de plus. Figurez-vous que cette année-là, à cette même période, alors que j'étais dans cette situation, dans cet état de cœur, loin d'être satisfait en même temps de ce que j'avais, d'être reconnaissant pour ce que j'avais, on s'est fait cambrioler. Et on nous a volé tous les cadeaux de Noël qu'on venait d'acheter pour la famille, plus tout plein de choses qui nous appartenaient, la télévision, la caméra sur laquelle j'avais laissé des souvenirs de vidéos de notre voyage de noces, l'ordinateur, tout plein de choses, pour une somme assez conséquente. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment pris cette idée de... Comme si le Seigneur me disait, mais tu vois, Michael, tu cherches ta satisfaction ou tu cherches quelque part à être comblé, peut-être par d'autres choses. Et tu vois que ben, tu ne sais pas ce que tu voulais pour Noël, mais tu peux aussi tout perdre ce que tu avais. Et que finalement, si ta satisfaction, tu ne la trouves pas ailleurs que dans ce que tu as ou ce que tu n'as pas, eh bien, tu vas rester insatisfait toute ta vie. Ce qui nous amène à cette réflexion, si on n'est pas appelé à trouver notre satisfaction, notre contentement dans ces choses matérielles qui peuvent fluctuer dans nos vies, alors il nous faut trouver notre satisfaction dans quelque chose qui va être durable, qui ne va pas bouger, qui ne va pas fluctuer. Il nous faut une source de satisfaction qui soit beaucoup plus profonde, à laquelle se raccrocher. Cette source de satisfaction, comme on peut parfois l'entendre aujourd'hui, et qu'on voyait, qui ressortait dans cette définition qu'on a vue, elle n'existe pas non plus en nous-mêmes. Ce n'est pas au plus profond de nous. Nous n'existons pas pour être autosuffisants. Mais c'est cette source de satisfaction, nous la retrouvons dans une relation. Dans une relation avec Dieu. Et quand on regarde à la dernière fois où l'être humain vivait une pleine satisfaction, c'était dans le jardin d'Éden, quand il était avec son Créateur et qu'il était dans cette parfaite harmonie, dans cette parfaite relation avec lui. Et c'est bien là que le diable est venu jouer en lui insufflant l'idée que Dieu était en train de les priver de quelque chose de meilleur. Dieu est en train de vous priver de quelque chose de plus que ce que vous avez déjà. Il est possible pour vous d'être encore plus heureux, plus comblé que ce que vous l'êtes. Cette relation avec Dieu n'est pas suffisante. Et c'est un mensonge. On regarde dans une autre lettre que Paul a écrite, ce qu'il a dit. Il a dit « La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » La véritable richesse, dit Paul, se trouve dans cette relation que l'on a avec Dieu, associée au contentement de ce que l'on a. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans le chapitre précédent de sa lettre aux Philippiens. Il a tout considéré comme une perte. Pourquoi ? Pour gagner Christ. Il avait Jésus, ce qui signifie que pour lui, il avait l'essentiel. Il avait trouvé en Christ et dans cette relation avec lui le bien le plus précieux. Il savait que Christ s'est fait pauvre. Il savait que Christ s'est humilié. Il savait que Christ, il a connu le dénuement. Il savait que Christ a eu soif pour que lui et nous puissions trouver une profonde satisfaction dans une relation retrouvée avec Dieu, notre Créateur. À trois reprises aussi, dans une autre de ses lettres, Paul dira « J'ai cette écharpe dans la chair, ce souci très certainement d'ordre physique, qui lui causait très certainement de la souffrance. » À trois reprises, bien sûr, et c'est normal, il a demandé à Dieu si Dieu pouvait le délivrer de cette écharpe. Et Dieu lui a répondu, non en quelque sorte, ma grâce te suffit. La définition biblique du contentement, c'est la certitude que Dieu a pourvu à tous nos besoins. En conséquence, nous sommes libérés de tout désir ou de toute anxiété injustifiée. Je répète, c'est la certitude que Dieu a pourvu à tous nos besoins. En conséquence, nous sommes libérés de tout désir ou toute anxiété injustifiée. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins essentiels, nos besoins vitaux. Et je crois que parfois, dans nos vies, nous faisons une confusion entre un besoin vital et ce qui est peut-être de l'ordre du superflu. Alors quel est ce besoin vital? Quel est ce besoin essentiel? Jésus a dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et dans le contexte de ce que Jésus était en train de dire, de parler, il était en train de parler de la nourriture et du vêtement. Si l'essentiel aux yeux de Christ est la nourriture et le vêtement, eh bien, je crois que nous vivons au-dessus, dans un standard de vie bien, bien supérieur à cet essentiel pour une majorité d'entre nous. Vivre le contentement en toutes circonstances n'est pas facile. Comment pouvons-nous faire ? Nous avons, pour la majorité d'entre nous, aujourd'hui cette relation avec Christ. Et pourtant, nous expérimentons encore parfois tant d'insatisfaction, où nous cherchons à combler nos vies de tout un tas d'autres choses. Comment pouvons-nous vivre ce contentement ? Quelles sont les ressources que Paul nous dit pour vivre ce contentement ? Paul dit ceci, verset 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Et là, j'aimerais faire une pause et ouvrir une parenthèse. On entend ce verset, je pense que peut-être une majorité d'entre nous le connaissent. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Et on l'utilise un petit peu dans toutes les situations de nos vies. Je vais aller à un entretien d'embauche. T'inquiète pas, ça va le faire. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Je fais face à l'échec dans ma vie. T'inquiète pas, Dieu va te relever. Tu peux tout par celui qui te fortifie. J'ai un rêve dans ma vie. Crois-y. Fais confiance à Dieu, tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais que se passe-t-il quand les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, quand tout ne se passe pas bien ? Le tout ici ne veut pas dire accomplir tous les désirs de son cœur, mais Paul peut surmonter les circonstances en étant pleinement satisfait en Christ, parce que Christ et tout pour lui. J'ai besoin de Christ pour avoir la force de surmonter les circonstances parfois défavorables et difficiles de la vie, en ayant cette confiance, cette pleine confiance dans le fait que Dieu pourvoira. Alors j'ai cette question pour nous. Est-ce que vous êtes ce matin insatisfait de ce que la vie vous apporte ? Est-ce que vous avez soif de quelque chose de plus dans votre vie ? Ce temps ce matin est une invitation que le Seigneur vous fait à trouver cette satisfaction dans cette relation avec lui. Jésus a dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit à la femme samaritaine, je suis cette source d'eau vive. Et il a dit à ses disciples, je suis le pain de vie. Peut-être que ce matin, vous êtes dans cette relation avec le Seigneur et que malgré cela, vous faites encore l'expérience de mécontentement, d'insatisfaction. Alors peut-être que vous pouvez faire cette prière. Vous associez à cette prière, Seigneur Jésus, que je sois dans la pauvreté ou l'abondance, donne-moi la force de trouver chaque jour une profonde satisfaction dans cette relation que j'ai avec toi, parce que tu es tout suffisant. Que je puisse te faire confiance dans le fait que tu pourvoiras à mes besoins essentiels, parce que tu l'as promis. Paul considère le contentement en Dieu comme une richesse. Mais il considère aussi le don pour Dieu comme une richesse. Ce sera mon deuxième point qui sera plus court. Malgré l'apprentissage du contentement, Paul redit encore combien il est reconnaissant pour ce don, pour la générosité des Philippiens. Il mentionne que ce sont la seule église qui, à deux reprises, lui ont fait parvenir des dons. Il est touché par leur sensibilité à ses besoins. et il leur dit « Vous avez bien fait ». Mais à nouveau, dit-il, « Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Il y a plus important pour moi. C'est que ce don, vous l'avez fait avant tout pour Dieu. » Jésus a dit dans les évangiles, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Dans Matthieu 6. Voilà quelle est la véritable richesse. En rappelant que tout ce qui est amassé sur la terre est appelé à disparaître, mais que ce qui est amassé dans le ciel est éternel. Et c'est ce que Paul soulève, c'est que ce don que les Philippiens ont fait est un investissement spirituel qui produira des fruits pour l'éternité, des intérêts pour l'éternité que Dieu récompensera un jour. Et c'était ça qui intéressait Paul par-dessus tout. Le fait que les chrétiens abondent toujours plus en fruits spirituels et qu'ils alimentent en quelque sorte ainsi leur compte en banque céleste. Paul dit que cette offrande lui fait plaisir, mais qu'avant toute chose, cette offrande est agréable à Dieu, comme un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Ailleurs dans la parole, il y a ces mêmes termes qui sont employés pour parler du sacrifice de Christ qui satisfait pleinement Dieu. Et Paul est en dire, mais ce don que vous avez fait avant tout pour Dieu, en le faisant pour moi, eh bien c'est quelque chose que Dieu agrée, qui fait plaisir à Dieu. Dans Hébreux 13, 16, il est dit, « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Ce qui fait que si on résume ce que dit Paul, en quelque sorte ici, il est en train de dire qu'un don, quel qu'il soit, réalisé de tout son cœur pour Dieu en premier, eh bien c'est un investissement éternel. Alors j'aimerais nous encourager ce matin et vous poser cette question, est-ce que vous réalisez que vous investissez pour l'éternité ? À chaque fois que vous faites un don matériel ou financier pour une église, pour une œuvre, pour une personne, si dans votre cœur c'est avant tout quelque chose que vous faites, en premier quelque chose que vous faites pour Dieu, eh bien c'est un investissement éternel. À chaque fois que vous donnez du temps, vous donnez de votre temps pour garder peut-être les enfants d'un couple dans l'église pour qu'ils puissent prendre du temps à deux. Quand vous donnez de votre temps ou de votre énergie pour aider pour un déménagement. Quand vous donnez de votre temps pour aller visiter un frère ou une sœur malade. Quand vous donnez de votre temps pour prendre un moment de qualité avec vos enfants, avec votre épouse, votre conjoint. Quand vous prenez de votre temps pour amener quelqu'un peut-être faire les courses. Quand vous donnez de votre temps, vous vous investissez pour être animateur, directeur dans un camp d'été. Quand vous investissez du temps et de l'énergie pour préparer une prédication, une introduction de culte, le temps d'enseignement des enfants, le temps où vous gardez des enfants. Si dans votre cœur, c'est pour Dieu que vous faites ça en premier, alors c'est un investissement éternel. Quand vous donnez le meilleur de vous-même dans votre travail, quand vous offrez des vacances peut-être à l'un ou l'autre en mettant à disposition votre maison, si c'est pour Dieu que vous faites cela avant toute chose, c'est un investissement éternel. J'aimerais conclure. Non, il manquait un point. Encore un autre encouragement pour nous en tant que communauté. Un encouragement, continuons à être une église généreuse. Continuons à soutenir des œuvres, à soutenir des missions, à soutenir des missionnaires. faisons-le avant toute chose comme quelque chose que l'on fait pour Dieu. Et rappelons-nous que en cela, c'est aussi un investissement pour l'éternité. Pour conclure, l'argent, les biens matériels de ce monde vont disparaître. Soyons encouragés à investir dans ce qui compte plus que tout. Apprenons à être contents, quelles que soient les circonstances, sachant que nous avons déjà tout en Christ. Soyons aussi généreux les uns envers les autres, en le faisant avant tout pour Dieu et pour sa gloire. Avec cette pleine confiance, comme l'affirme Paul au verset 19 et 20, que Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen.